Matthieu chapitre 26, on peut regarder Matthieu 26, verset 36, à partir du verset 36. Matthieu 26, et à partir du verset 36. Vous vous rappelez cet épisode lorsque Pierre a dit qu'il ne reniera pas Jésus. Et verset 35, il dit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Tous les disciples aussi ont dit la même chose. Et puis, il dit là-dessus, donc sur cet entrefait, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Verset 36. Et il dit à ses disciples, aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et on trouve à peu près le même récit aussi dans l'évangile de Luc où il dit à la fin, donc dans Luc 22, et au verset 45-46, il dit « Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc, c'est l'exhortation que Jésus donne ici, c'est celle qui consiste à encourager ses disciples à la prière. « Levez-vous et priez. Pourquoi est-ce que vous dormez ?» Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire dans notre vie individuelle, chrétien, mais aussi dans notre vie d'église communautaire. L'église doit, des enfants de Dieu doivent prier. Et on reconnaît les enfants de Dieu dans le fait qu'ils prient. Et quelqu'un dit, si on ne prie pas, si un chrétien ne prie pas, il y a peu de chances qu'il soit vraiment un chrétien. Parce que c'est une marque caractéristique du chrétien. Le fait de prier, d'avoir un temps de prière, pas juste de prononcer des prières, mais de prier véritablement, d'avoir un temps de prière avec Dieu, de rechercher cela de manière individuelle dans sa vie, mais de manière collective aussi, en tant qu'Église. Et Jésus dit à ses disciples ici, « Levez-vous et priez !» Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, et on lit les Écritures, on voit combien de fois nous sommes exhortés aussi à prier. Alors, dans ce que Jésus dit ici, qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme et sur la prière? Quand il dit prier, je reviens dans Matthieu au verset 41, quand il dit ici veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'accord ? Donc si on se pose la question, pourquoi donc prier selon Jésus ici ? Quelles sont les réponses que nous pouvons apporter à cela ? Je vous laisse un peu proposer ce que vous saisissez de ce passage. Pourquoi prier ? Selon ce qu'il dit ici. Oui, pour éviter les tentations, d'accord. D'autres choses? Oui, ça. D'autres compréhensions que vous avez de ce que Jésus dit ici? Afin, oui, voilà, renouveler l'esprit, restreindre la chair, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que c'est facile de prier? Est-ce que c'est, je vais le prendre comme ça, est-ce que c'est naturel de prier? Non. Donc, je pense que ça, c'est une chose que l'on apprend quand on lit cela, c'est que la prière n'est pas une attitude naturelle chez nous. Alors, pas croire qu'on prie tout naturellement. On prie comme on respire. C'est pas vrai. Puisqu'on voit ici que la chair lutte même contre cette attitude. Et on voit que les besoins naturels même du corps peuvent lutter contre l'esprit de prière. La fatigue, les disciples, ils sont fatigués et ils s'endorment. Tout à fait, ils ne pêchent pas quand ils s'endorment. Hein. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Certainement une journée longue, harassante, de discussions. Et ils s'endorment tout naturellement. Mais même ce qui est le plus naturel chez nous peut être un obstacle à la prière. Donc, je pense que Jésus nous montre ça ici. Hein. On le voit, hein, parce que les disciples, plusieurs fois, il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Et il les interpelle sur le fait que prier demandera parfois, eh bien, de lutter contre l'envie de dormir. Hein. Parfois, on peut se dire, ah, je sors du travail, je suis quoi? Je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Et Jésus peut dire, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. C'est pour nous, hein, aussi qu'il dit les choses ainsi. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup d'autres choses que de prier. C'est quelque chose que l'on fait quand on prie surtout individuellement, et c'est quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Hein. Un culte, comme quelqu'un disait, un culte de famille, ça se voit. La famille le voit, nos voisins peuvent l'entendre, etc. Hein. Je vais à l'église, ça se voit. Mais quand j'ai un temps de prière seul à seul avec Dieu, c'est moi seul et Dieu qui voyons les choses, et c'est difficile d'entretenir cela. Si vous êtes honnête, en tout cas moi, je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est difficile pour nous tous, hein, mais le Seigneur nous commande de le faire. Donc, il y a cette première chose que Jésus dit ici. Une autre chose, c'est que on pourrait voir aussi que pourquoi prier? Parce que la prière véritable rend conscient de notre faiblesse humaine. Il dit, priez car la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir un esprit bien disposé à la prière pour prier. La chair a besoin d'être dominée aussi. Il faut un esprit disposé, mais il faut aussi dominer, maîtriser le corps, comme l'apôtre Paul le disait, pour pouvoir prier, trouver un temps, ne pas faire certaines choses et faire d'autres, mettre de côté ce qu'on aurait envie de faire. Le temps où on devait prier, ou le jour où on devait se réunir avec l'Église pour prier, pour faire l'effort d'être là et de prier. Il ne suffit pas d'être plein de bonnes dispositions, de dire oui, bon, je ne le fais pas, j'y vais pas, mais le cœur y est. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas juste que le cœur y soit, il ne faut pas juste que l'esprit soit disposé à le faire. Il faut que l'esprit soit disposé au point que le corps suive cette bonne disposition de l'esprit. Et pour prier, il faut cela. Et donc, prier, ça permet de ne pas avoir seulement l'esprit bien disposé, ça permet de surmonter aussi la faiblesse de la chair. Parce que Jésus dit, priez parce que hein, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et donc, on a besoin aussi des deux ici. Une autre chose qu'on peut voir encore, c'est que la prière est un rempart certain contre le péché, ici. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Autrement dit, qui ne prie pas tombe dans la tentation. Et donc, la prière et le péché sont deux choses qui s'excluent. La prière véritable et le péché sont deux choses qui s'excluent profondément. Je vous cite encore cet auteur que j'aime bien, qui s'appelle J.C. Ryle, qui dit que la prière consumera le péché ou le péché étouffera la prière. Si je prie, je consumerai le péché. Je prie véritablement, hein, ça s'entend. Mais si je ne le fais pas, c'est le péché qui va étouffer la vie de prière. Ces deux choses ne peuvent pas coexister en même temps. Celui qui prie vraiment lutte contre le péché. Celui qui est dominé par le péché, il ne prie pas en général. C'est ce que Jésus souligne ici. Il dit « Priez afin que vous ne tombiez pas ». On pourrait dire que la chute spirituelle est liée à l'absence d'une véritable vie de prière, de véritables prières individuelles, mais aussi de véritables prières communautaires. Et puis, un dernier point que je voudrais souligner aussi, c'est que on peut voir que la prière est puissante, hein? Elle est extrêmement puissante, parce que Jésus demande à ses disciples de prier, c'est qu'il y a une efficacité forte dans la prière. Jacques le dit aussi, il dit, rappelez-vous dans Jacques 5, 16, il dit que la prière fervente du juste a une grande quoi? Efficacité. Jacques 5, 16, il faut retenir ça, Jacques 5, 16, notez-le dans votre Bible, soulignez-le si vous ne l'avez jamais encore remarqué, mais il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle a une efficacité dans quoi? À votre avis, dans tout. Contre le péché, on le voit ici, mais on peut le voir dans beaucoup d'autres domaines. Alors, je vous laisse trouver des domaines où vous voyez dans la Bible des hommes de Dieu qui ont prié. Et comme faisait remarquer quelqu'un, il n'y a pas dans la Bible un seul exemple d'homme de Dieu qu'on ait vu en train de prier. Il n'y en a pas. Ils sont tous, à un moment donné ou à un autre, on voit qu'ils étaient des personnes de prière. Donc ça donne une idée de ce que devrait être notre caractéristique en tant qu'enfant de Dieu. Daniel, par exemple, a prié plusieurs fois, hein, mais on le voit prier pour que lui soit révélé une connaissance, que Dieu lui donne une connaissance. Donc il prie pour cela. Pourquoi d'autre? On voit prier dans la Bible, par exemple. Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Oui, pour le pardon des péchés. Vous priez pour le pardon des péchés. Hein? C'est important. Hein? Alors, bien sûr, on dit souvent, il ne suffit pas de faire une prière de tel type pour dire qu'on est sauvé. Il y a des gens qui disent, oui, moi, j'ai fait telle prière il y a 10 ans et puis je suis sauvé. Ce n'est pas ça. Hein? La Bible ne dit pas ça. Hein? D'accord? Donc, il n'y a pas, on appelle ça souvent la prière, parfois certains appellent ça la prière du salut. J'ai fait la prière du salut. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais néanmoins, elle dit, hein, d'accord, qu'on demande à Dieu. Celui qui ne demande pas n'obtient pas. On demande à Dieu d'être sauvé. Donc, comme dit Janine, oui, on prie pour le pardon des péchés, pour être sauvé, pour le salut. Quoi d'autre? Oui, donnez-moi pourquoi est-ce qu'ils ont pris des exemples de. On veut savoir dans quoi la prière est efficace. Hein, c'est ce qu'on recherche ici. On a prié pourquoi, on a obtenu quel résultat dans la Bible. Donc, le pardon, oui, on a vu, on a dit. Daniel qui prie pour qu'une révélation lui soit faite, Dieu la lui donne. On peut prendre l'exemple d'Élisée qui prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il voit, hein, clairement. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent? Élie qui a prié pour la pluie. Il a prié pour qu'il n'ait pas de pluie. Après, il a prié pour qu'il ait de la pluie. D'accord. Et d'ailleurs, quand Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité, il prend l'exemple d'Élie quand il dit ça. Il cite Élie qui a prié pour qu'il ne pleuve point, puis qui a prié après pour qu'il pleuve. D'autres exemples? Encore? Esther pour... oui, voilà, très bien. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. L'apôtre Paul, hein, a prié pour beaucoup de choses. Hein. Jésus lui-même, d'accord, il a prié pour le choix des disciples. Et Dieu a donné les disciples qu'il fallait. Il a prié pour la multiplication des pains. Puis Dieu a permis la multiplication des pains. On a beaucoup d'exemples où, avant de faire chaque chose, eh bien, on voit la prière et l'efficacité dans la prière. Et que de miracles, n'est-ce pas, ont été faits grâce à la prière. On dit que la reine d'Écosse, hein, Marie, reine d'Écosse, à l'époque du réformateur John Knox, qui était un homme de Dieu, un homme de prière, a dit « Je crains plus les prières de John Knox qu'une armée de 10 000 hommes. » Alors, je ne sais pas si le gouvernement français dit « Je crains plus les prières des chrétiens que la bombe nucléaire de Poutine. » Je ne sais pas si on dit ça, mais probablement, si ça ne se dit pas, c'est parce que nous ne montrons pas, nous-mêmes, de grande confiance dans la prière. Si la reine d'Écosse de l'époque, des années 1500 et quelques, a pu dire cela, c'est qu'elle avait vu cet homme et l'efficacité du ministère que Dieu lui avait confié et les prières qu'il prononçait. Et donc, c'est important, hein? C'est-à-dire que les gens de l'extérieur apprennent des choses par la ferveur des chrétiens en prière. Ils apprennent qu'il y a une puissance dans la prière. Ils voient la réalisation. Quand des choses se passent dans notre vie, ils disent « Mais nous avons prié pour cela » et que les gens du monde voient que c'est parce que nous avons prié. Eux, ils disent « C'est autre chose », mais disons que c'est parce que nous avons prié. Néanmoins, ils enregistrent que la prière a une importance et surtout une efficacité. Jusqu'au point où ils peuvent demander, même à des chrétiens parfois, priez pour nous, pour moi. Je ne sais pas comment il faut le faire. Vous savez, faites-le. Ça arrive parfois. Donc, que le Seigneur nous aide dans cela. L'apôtre Paul comptait, lui, je termine avec ça, sur les prières des chrétiens. Beaucoup. Et sur l'efficacité des prières des chrétiens. Il ne disait pas, moi, je suis apôtre Paul, je peux prier pour moi-même. Non, il demandait aux chrétiens de prier pour lui. Rappelez-vous, en Éphésiens, il dit, priez pour moi, il était en prison, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître le mystère de l'Évangile et que j'en parle comme je dois en parler. C'est ce qu'il dit. Mais en Philippiens, chapitre, regardez, deux versets, Philippiens, chapitre 1, verset 19. Philippiens 1, verset 19. Ici. Philippiens 1, 19, il dit, verset 18, il parle de ceux qui en veulent un peu, qui prêchent l'évangile par esprit de parti, et puis pas tous, mais certains le faisaient. Et puis il dit, verset 18, il dit, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Et puis il dit, car, verset 19, je sais que cela tournera à mon salut, grâce à quoi ? Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit, je sais que ces choses, cette situation que je vis, ça va tourner à mon salut parce que vous priez pour moi. C'est-à-dire, il met ça au bénéfice de la prière des saints. Puis Philémon, verset 24, il n'y a qu'un seul chapitre. Alors on dit Philémon, verset 24. Il dit, c'est verset 24, j'ai bien noté, verset 22, pardon, Philémon, verset 22, il dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Encore une fois, il montre qu'il croit dans l'efficacité de la prière des chrétiens. Donc, c'est que Dieu fait des choses, opère des choses par la prière. Il a dans sa souveraineté, décider d'opérer par le moyen de la prière. Ce n'est pas la prière en elle-même qui est quelque chose, c'est que Dieu a décidé d'opérer au travers de la prière. Et c'est pour cela que nous devons prier, que ce soit pour la sanctification de notre vie, que ce soit les uns pour les autres, que ce soit pour que l'Évangile pénètre. Et on doit le faire, rechercher ces instants dans notre propre vie, mais aussi le faire de manière communautaire, comme l'Écriture nous le montre. Alors voilà, ça va être un peu notre petit temps, donc peut-être pour que ça puisse forger un peu notre esprit pendant que nous allons prier. Ce n'est pas vain ce que nous faisons. Hein. Dieu l'utilise de manière efficace pour sa gloire. Quelques sujets de prière. Peut-être vous avez des sujets de prière.